Il est 2h du matin à Damas, 23h temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est minuit. L'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde. Mathis Slimano, bonsoir Mathis.
Bonsoir Zéphirin, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, en Syrie, le parti du président déchu Bachar el-Assad suspend ses activités jusqu'à nouvel ordre. Le nouveau premier ministre s'engage lui au respect de toutes les communautés et appelle les réfugiés syriens exilés à rentrer au pays. Dans le nord de la Syrie, les bombardements turcs se poursuivent sur les positions kurdes, précision juste après les titres. Et dans le sud, ce sont les forces israéliennes qui se déploient au-delà de la zone tampon et continuent de frapper des sites militaires, notamment à Latakia. Il y a quelques heures, action condamnée par les experts de l'ONU, on y revient également. Et puis, l'État hébreu avait dépêché des avions pour les ramener d'Amsterdam, les supporters du Maccabi Tel Aviv. C'était début novembre, le procès de leurs agresseurs s'est ouvert ce mercredi. Pierre Benazé nous dresse leur profil dans le journal. En Syrie, trois jours après la chute de Bachar el-Assad, le parti Baas, parti politique du président déchu, annonce suspendre ses activités jusqu'à nouvel ordre. Le nouveau premier ministre promet, lui, de respecter toutes les communautés. Mohamed al-Bashir appelle les 6 millions de Syriens exilés à rentrer et reconstruire le pays. Mais si le pouvoir à Damas est bien en cours de transfert, la situation est loin d'être stabilisée en Syrie, notamment dans le nord où, malgré un cessez-le-feu conclu entre milices pro-turques et forces pro kurdes, l'armée d'Ankara, elle, poursuit ses bombardements sur la région autonome kurde, Pierre-Olivier.
Si depuis plusieurs heures, les combats semblent s'être arrêtés au sol dans la région de Manbij, ville à l'extrême est du territoire kurde, c'est dans les airs qu'ils continuent. Selon des sources proches des forces démocratiques syriennes kurdes, ce mercredi après-midi, une cimenterie du groupe Lafarge, située au sud de la ville frontalière turque de Kobani, aurait été touchée par une frappe de l'armée d'Ankara. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de plusieurs frappes de drones turcs, notamment dans un quartier du centre de Raqqa aux mains des forces démocratiques syriennes. Ces FDS, alliés des Occidentaux dans la lutte contre le groupe État islamique, sont considérés par la Turquie comme une émanation de son ennemi juré, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. L'aviation turque profite donc de la situation en Syrie pour lancer une offensive sur les Kurdes avec un objectif, créer une zone tampon d'une profondeur de 30 km en Syrie, le long de la frontière turque, afin de repousser les forces démocratiques syrienne, 30 km dans lesquels installer à terme des réfugiés syriens pour en faire une sorte de bouclier humain.
En trois jours de combat, le bilan dépasse les 200 morts dans le nord, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et dans le sud aussi, la situation reste très tendue. L'armée israélienne s'est déployée au-delà de la zone tampon du Golan, une incursion contraire au droit international, rappelle l'ONU, tout comme les presque 500 frappes d'Israël sur des sites militaires syriens. Officiellement, Benjamin Netanyahou dit vouloir éviter qu'une menace terroriste ne s'installe à la frontière. Jusque-là, le groupe HTS au pouvoir à Damas n'a pas réagi militairement. A-t-il intérêt à le faire? Élément de réponse avec Amélie Ferré, chercheuse à l'Institut français des relations internationales.
La problématique pour HTS, ça va être aujourd'hui de consolider son pouvoir et également de réduire les poches de résistance avec des groupes loyalistes à Bachar el-Assad qui sont toujours en présence. Donc, ils n'ont pas intérêt à rentrer dans un conflit ouvert avec Israël. Il y a un avantage israélien dans le sens où HTS n'a pas encore tout le contrôle du territoire syrien et un pouvoir politique qui est instable et donc ils ne peuvent pas vraiment répondre militairement. Et donc Israël est en situation de force par rapport à ce pouvoir en Syrie. Donc l'idée, c'est de modeler au maximum l'environnement stratégique en Syrie en réduisant au maximum ses capacités militaires de manière à pouvoir s'assurer d'une prééminence dans les années à venir.
Amélie Ferré dans RFI Midi, analyse et entretien à écouter en intégralité sur notre site et l'application Pure Radio de RFI. C'est dans ce contexte qu'Anthony Blinken se rend en Turquie ce jeudi. Il était en Jordanie la veille pour discuter de la situation en Syrie. 12e visite au Moyen-Orient pour le chef de la diplomatie américaine depuis le 7 octobre. Il entend aussi insister sur l'urgence d'établir un cessez-le-feu à Gaza, dans le nord de l'enclave. Une frappe israélienne a tué 22 personnes ce mercredi, selon la défense civile. Moscou menace de frapper à nouveau l'Ukraine avec un missile balistique en réponse à une nouvelle attaque ukrainienne ce mercredi sur un aérodrome militaire russe, attaque menée avec des missiles américains. Le missile russe Oreshnik a déjà été expérimenté sur la ville de Dnipro à la fin du mois de novembre. Moscou et Kiev, tout proche d'un cessez-le-feu pour Noël, affirme le premier ministre hongrois Viktor Orban, s'est entretenu avec Vladimir Poutine, mais l'idée d'une trêve a été rejetée par Kiev. Faux, rétorque Volodymyr Zelensky, qui assure qu'aucun échange n'a eu lieu avec Viktor Orban. En appelant Vladimir Poutine, le premier ministre hongrois sape l'unité européenne, a déploré le président ukrainien. À noter un nouveau paquet de sanctions de l'UE contre les intérêts russes, c'est le 15e depuis le début de la guerre. Il vise notamment une cinquantaine de navires de la flotte dite fantôme de la Russie, flotte qui permet d'exporter son pétrole et son gaz. Les images avaient fait le tour du monde. Jeudi 7 novembre, l'Ajax Amsterdam recevait en Ligue Europa le club du Maccabi Tel Aviv. Une rencontre émaillée de violence tout au long de la soirée dans les rues de la capitale néerlandaise. Des émeutiers s'en étaient pris aux supporters du Maccabi. Des violences qualifiées de pogrom par la mairie d'Amsterdam. Eh bien, la justice est en marche. Pierre Benazé, les premiers accusés sont passés ce mercredi devant les juges.
Ils sont 5 jeunes hommes, tous adultes, âgés de 19 à 32 ans. Ils ont comparu tour à tour lors d'audiences successives. Certains ont été arrêtés dans la nuit du 7 au 8 novembre après les violences contre les supporters du Maccabi. D'autres, suite à l'identification par la police, avec les nombreuses vidéos qui ont circulé cette nuit-là. Ce sont d'ailleurs ces vidéos qui incriminent Sefa, un coiffeur de 32 ans. « Vous êtes un des leaders », accuse le parquet. « On vous voit sur ces images. Je regrette de m'être trouvé là », réplique-t-il, alors qu'on diffuse dans la salle d'audience 3 films. On le voit en particulier frapper des hommes à terre. Le ministère public requiert 2 ans de prison, dont 18 mois ferme, la plus lourde des peines requises aujourd'hui. Vient ensuite, par exemple, Rachid O. La justice néerlandaise ne donne pas les noms de famille. À son encontre, ce sont 6 mois, dont 4 fermes, que requiert le parquet. Vous ne pouviez pas ignorer que vos appels à la violence allaient être suivis. Des appels à la violence contre, je cite, le cancer juif, sur le groupe WhatsApp Maison de Quartier, sur lequel se trouvaient ce soir-là plus de 900 personnes. Le parquet n'a retenu le terrorisme contre aucun d'entre eux, mais ils ont tous exprimé leur frustration devant les événements à Gaza. Amsterdam, Pierre Benazet, RFI.
La France connaîtra son nouveau Premier ministre jeudi soir, selon France Télévisions. En attendant, Emmanuel Macron poursuit ses consultations en vue de former un gouvernement. Ce mercredi, la loi spéciale a été présentée au Conseil des ministres démissionnaires. Elle permettra à l'État de continuer de fonctionner malgré l'absence de budget. La loi spéciale sera ensuite débattue lundi à l'Assemblée nationale. Venons-en à présent à ces solutions face à la désertification. À la COP16 de Riyad en Arabie Saoudite, les pays participants ont des pavillons pour présenter leurs innovations, leurs technologies. Notre envoyé spécial Igor Strauss s'est arrêté au pavillon de la Chine devant un robot planteur d'arbres.
C'est le robot planteur d'arbres le plus moderne de Chine, me dit avec fierté M. Fan Yang, directeur général de l'entreprise Isen. Il est doté d'un GPS, d'un pilote automatique et de l'intelligence artificielle. Une technologie de pointe dans un robot d'à peine 3 mètres de haut qui peut planter un arbuste toutes les 20 secondes, soit plus de 1500 par jour. Le robot creuse un trou, plante l'arbuste, rebouche le trou et arrose le plan, ajoute M. Yang. Une prouesse technique, certes, mais la Chine ne manque pas de main-d'œuvre, donc quel est l'intérêt ? Parce que ça coûte très cher d'envoyer de la main-d'œuvre dans le désert, répond M. Yang. Et les conditions de travail sont éprouvantes, donc personne ne veut y aller. Coût du robot, entre 100 000 et 150 000 dollars pièce. À ce prix, pour quel marché est-il destiné ? Pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Notre but, c'est d'améliorer l'environnement de toute la planète. C'est un des paradoxes de cette COP en Arabie Saoudite. Des technologies de pointe sont présentées à certains des pays les plus pauvres du monde. Igor Strauss, Riyad, RFI.
Un mot de football à présent pour refermer votre journal. Suite et fin de la 6e journée de Ligue des Champions, Manchester City continue de s'enfoncer. Défaite 2-0 à Turin, à Londres. Monaco s'incline logiquement face à Arsenal et glisse parmi les barragistes. Le FC Barcelone, lui, a dû s'employer pour venir à bout de Dortmund. Victoire 3-2. Barcelone pointe son nez à la 2e place du classement. L'AC Milan s'impose sur le fil 2-1 face à l'étoile rouge Belgrade. Et puis, plus tôt dans la soirée, Lille a eu chaud mais prend les 3 points à domicile face aux Autrichiens du Sturmgrass. Les Lillois qui grimpent à la 8e place, juste derrière les Brestois héroïques de la veille. Pour rappel, le top 8 est synonyme de qualification directe en 8e de finale.